Docteur Drouin, bonjour.
Oui, bonjour.
Content d'accueillir la directrice régionale de la santé publique de Montréal. Écoutez, je me doute bien que vous n'avez pas le temps de faire des tomates par les temps qui courent.
Non, hein? C'est bien intéressant, par contre, mais non, j'ai pas eu le temps j'ai pas de jardin.
Je vous souhaite l'année prochaine de pouvoir en faire. Mais écoutez, dites-moi plus sérieusement, question générale pour commencer, Docteur Drouin, qu'est-ce qui vous tient réveillé la nuit de ce temps-là?
Ben actuellement, je dirais, évidemment, je pense qu'on est quand même prêt pour une deuxième vague et une hausse qui nous tient réveillés. Ce serait peut-être évidemment la même chose qu'on entend là du gouvernement, les rassemblements privés et cette baisse là de vigilance qu'on voit évidemment dans certains groupes, certains rassemblements pour lesquels on n'a pas non plus beaucoup d'emprise là qui nous permettent vraiment de réduire rapidement la transmission dans ces groupes là. Donc c'est je dors bien ces temps-ci.
OK, parfait. Bon, on vous le souhaite. Dites-moi, Docteur Drouin, présentement, on est en zone jaune à Montréal. Qu'est-ce qui ferait qu'on tomberait en zone orange, là, qui est l'avant-dernier palier d'urgence?
Bien évidemment, c'est un ensemble d'indicateurs qu'on regarde à chaque semaine, toujours sur une perspective d'une semaine, parce qu'évidemment, il y a des fluctuations à chaque jour. Donc, c'est évidemment une hausse du nombre de cas et du taux de positivité. On regarde évidemment si la capacité du système de soins est dépassée. Et évidemment, tout le contexte plus qualitatif du type d'éclosion qu'on a. Donc, par exemple, actuellement, tout ce qui se passe en milieu scolaire, oui, on a des cas sporadiques, des éclosions en milieu de travail aussi, mais c'est quand même des éclosions petites et bien contrôlées. Alors que si on avait vraiment une hausse de la proportion de nos cas dans des contextes, comme je disais, sociaux, de grands rassemblements et de mariages, évidemment, de mariages ou autres fêtes, plus difficile à contrôler, ça pourrait influencer le fait de passer plus rapidement en orange. Mais les grands indicateurs, c'est les taux d'incidence et le taux de positivité mis en parallèle avec la capacité du système de soins.
Si vous deviez gager votre prochaine paye, est-ce que Montréal prochainement va passer en zone orange?
Pas à court terme là. Je pense que cette semaine, au début de la semaine, je pense que j'ai eu un petit peu peur là. En effet, là, je trouvais qu'on était très optimiste. Après ça, on a eu quelques cas là qui n'étaient pas comptabilisés, qui ont rentré. Donc, mais certains étaient de samedi. Donc, quand je regarde vraiment là dans les derniers jours, on est encore dans nos indicateurs qui sont encore dans la zone orange, peut-être peut-être un jaune un petit peu plus foncé là. Mais d'après moi, pour l'instant, on est sur la bonne voie là pour rester dans le jaune.
Le gouvernement a parlé de faire passer certaines régions dans certaines couleurs, là, mais on parle aussi d'isoler certaines sous-régions. Est-ce qu'à Montréal, avant de passer en zone orange, il y a des quartiers qui vont passer en zone orange?
Non, pour Montréal, on va pas diviser la région en sous-quartiers là, au niveau là, des paliers de couleurs. Ça se fait surtout dans des grandes régions qui ont vraiment des épidémiologies différentes, donc une région qui a vraiment un secteur rural versus urbain. À Montréal, si on fait ça, c'est sûr qu'on regarde les données territorial pour des fois intensifier le dépistage dans certains quartiers ou faire des approches avec certaines communautés spécifiques. Mais sinon, on peut pas se mettre à mettre des mesures populationnelles, par exemple, en lien avec les bars ou les rassemblements. Puis là, du côté à Hochelaga, on peut pas. Puis sur le plateau, on peut. Ça n'aurait aucun sens là à cause de la mobilité de la population. Donc, les mesures populationnelles vont être quand même harmonisées, mais il va y avoir des interventions spécifiques dans des quartiers plus chauds.
La rentrée scolaire selon les écoles, selon les quartiers, les commissions scolaires a commencé il y a entre 2 et 3 semaines. Est-ce que maintenant, en date du 18 septembre, est-ce que la rentrée scolaire est un succès à Montréal?
Oui, je pense que oui. Du côté de la transmission et du contrôle là, des infections, on a quand même beaucoup de cas sporadiques, mais on s'y attendait. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'inconvénients là, liés à des classes qui doivent s'isoler et faire l'école à distance. Mais comme je le disais, les éclosions qu'on a, on arrive à les contrôler rapidement. La majorité, c'est moins de 5 cas, sauf une là, qu'on a eu un petit peu plus de cas. Donc, plusieurs niveaux ont été fermés. Mais sinon, je dirais que ça va quand même, somme toute, très bien. Là. Puis, c'est pas... on voit qu'on arrive à bloquer la transmission très bien.
OK. Dr. Drouin, en tant que directrice de la santé publique à Montréal, qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour la contagion? Ce sont les bars et restos ou alors les rassemblements privés dans des résidences?
Bien, je dirais rassemblement privé, oui, dans les résidences, mais aussi toutes ces fêtes un petit peu de salles louées où on a soit un mariage, un baptême ou une activité dans une communauté. On voit clairement que quand les gens sont en terrain connu, donc avec des gens qui connaissent, il y a comme un relâchement des mesures de distanciation et de part du couvre-visage. Quand l'alcool se mêle, bien évidemment, ça l'ajoute. Et donc, je pense que c'est vraiment dans ces contextes-là qu'on voit que la source d'acquisition se fait. Et après ça, bien, ça se transpose dans nos milieux de travail, dans nos écoles, puis dans les résidences pour personnes âgées. Donc, vraiment, je pense que c'est vraiment de demander à la population de reprendre conscience du 2 mètres. Évidemment, si vous êtes dans un événement avec plein de gens, de mettre le couvre-visage. C'est de reprendre conscience un peu des mesures de base. Puis je pense qu'on va pouvoir limiter la propagation comme ça.
À Montréal, Dr Drouin, est-ce que les bars et restaurants, c'est un problème?
Non, pas pour le moment. On a eu évidemment l'épisode de cet été là où on a eu quelques bars là, des éclosions dans quelques bars, puis on a fait l'opération dépistage. Mais je vous dirais qu'actuellement, on n'a aucune éclosion active là, dans les bars. C'est sûr qu'on a des cas qui ont fréquenté des bars, mais pas d'éclosion. Et les restaurants, je pense qu'on en a quelques-uns, là, mais c'est très parcellaire, là, puis c'est des petits nombres. Là.
OK. Donc, à Montréal, les visites de policiers là, qui commencent en fin de semaine dans les bars et restaurants, ce que vous me dites, c'est que c'est pas très utile.
Bien, je pense que, tu sais, on a déjà plein de ce qu'on appelle de brigades de prévention qui font des visites dans différents contextes. C'est jamais inutile dans l'optique où on vérifie que les mesures sont en place, on répond aux questions. Des fois, avec le temps, les gens oublient ou l'appliquent moins rigoureusement. Donc, moi, je les vois aussi comme des mesures de sensibilisation. Je dis pas qu'il n'y a pas eu, il y a toujours des bars qui font exception, qui n'appliquent pas. Là, je reçois des petites vidéos des fois. Donc, je pense que ça sera pas. Ça sera pas inutile, mais je pense que ça sera pas fait dans une approche coercitive, là.
La police qui peut pas donner de contravention pour des rassemblements privés, est-ce que pour vous, comme directrice de la santé publique, Dr Drouin, c'est un gros problème?
Non, je pense que c'est pas de mon ressort. Je pense que c'est sûr que quand on rentre dans la vie privée, nous, on a toujours essayé de travailler davantage avec la collaboration, mais on voit, puis je lisais hier même des études sur les jeunes qui disaient si vous voulez qu'on écoute, il faut qu'il y ait des bâtons ou qu'on sache qu'il y a une conséquence à ne pas écouter. Je souhaite juste qu'on n'ait pas à se rendre à appliquer ce genre de contravention-là, mais que si il y a des mesures dissuasives qui sont en place que les gens vont comprendre, qui vont juste pas l'appliquer. Là. Mais pour nous, évidemment, depuis le début, les approches coercitives, c'est vraiment pas les premières approches qu'on prône là, pour engager la population avec nous là, dans cette lutte-là.
OK, je lisais dans Le Devoir ce matin que 20% des personnes contactées par les enquêteurs de la santé publique là, dans les enquêtes épidémiologiques, ce qu'on appelle le traçage, mais 20% des personnes refusent carrément de collaborer. Est-ce que ça vous surprend que ce soit si élevé?
Non, mais puis, je dirais que dans ce 20%-là, il y a quand même des nuances. Là. Il y en a que, je dirais, il y a 1 à 2% là, qui ne répondent pas au téléphone du tout. Ils prennent le combiné puis ils raccrochent. Dans les autres groupes, c'est vraiment, c'est variable. Des fois, ils ne voudront pas nous donner des contacts parce qu'ils ont peur de représailles. Des fois, ils ne voudront pas nous donner, ou après, les enquêtes sont très longues, là, après une demi-heure, c'est comme, ils en ont assez. Donc, c'est assez variable. Ce qu'on avait aussi au départ, c'était des gens qui ne répondaient pas au téléphone. Donc là, on a commencé à utiliser texto et autres modalités pour essayer de les rejoindre. Mais évidemment, je demande encore là, à la population de collaborer parce que pour nous, c'est essentiel là, au moins d'être capable de retracer les principaux contacts significatifs et les milieux où les gens ont été pour être capable de lier ces milieux-là, les cas au milieu et être capable de détecter des éclosions.
Dites-moi, considération technique, technologique, il y a des gens qui m'ont dit que quand la santé publique appelle, ça dit appel non identifié. Puis il y a des gens qui refusent de répondre aux appels non identifiés. Est-ce que si vous m'appelez pour une enquête épidémiologique, est-ce que c'est écrit santé publique sur l'afficheur?
Habituellement, c'est écrit CIUS Centre-Sud, là, parce que la santé publique fait partie du CIUS.
Docteur Drouin, vous savez que pour nous, les nerds de la santé, on sait ce que ça veut dire, CIUS, là, mais pour la moyenne des ours, ça veut peut-être pas dire grand-chose.
Oui, ben là, ça, je vous l'apprends à ce moment-là, là. Non, mais moi, ce que je sais actuellement, c'est qu'il est écrit CIUS Centre-Sud là, pour l'ensemble des téléphones là, de notre organisation. Avant, on a déjà eu des téléphones pour lesquels c'était anonyme, parce qu'évidemment, on fait des enquêtes pour d'autres types de maladies, puis on veut pas que la famille sache qu'on appelle nécessairement ou que tout le monde le sache. Donc, il y avait aussi, dans certains contextes, on utilise des téléphones anonymes, mais la plupart du temps, c'est les téléphones qui identifient au réseau de la santé.
On parle beaucoup des gens qui sont réticents, récalcitrants aux mesures de distanciation. C'est symbolisé par les manifs anti-masques, etc. Dans le réel, Dr Drouin, là, à quel point ça nuit aux efforts sur le terrain?
Bien, je pense c'est sûr que c'est des minorités, mais c'est quand même un discours qui prend beaucoup d'ampleur. Donc, en termes d'engagement de la population, ça fait contrepoids à ce qu'on essaie d'amener la population à coopérer avec nous. Est-ce que c'est vraiment eux qui se retrouvent à être des cas parce qu'ils n'appliquent pas les mesures si on n'est pas capable de le prouver? Puis je pense qu'il faut que la population garde en tête qu'ils occupent beaucoup d'espace, mais ça demeure une minorité, là.
Mais on sait qu'une minorité peut contribuer à infecter la majorité. Est-ce que c'est un problème au niveau de la propagation du virus ou c'est négligeable?
Bien, je pense que c'est pour ça qu'on a commencé à avoir des approches un petit peu plus coercitives par le gouvernement, entre autres en lien avec le couvre-visage, pour dire que ça ne sera pas toléré. Mais est-ce que je ne suis pas capable à ce stade-ci de prouver que c'est ces gens-là expressément qui peuvent devenir, par exemple, des super spreaders ou des gens qui vont démarrer des éclosions et même dans les manifestations, par exemple, qu'il y a eu avec des rassemblements où les gens n'étaient pas masqués. Nous, actuellement, on a posé les questions et on n'arrive pas à détecter ça dans nos données, là, qu'il y a eu des éclosions ou des cas associés.
Merci beaucoup pour votre temps, Dr Mylène Drouin, puis je vous souhaite un excellent week-end.
Merci beaucoup à vous aussi.